Bonjour. La mise en liberté annoncée de Jean-Claude Roman, le faux médecin condamné à perpétuité en 96 pour avoir tué 5 membres de sa famille, pourrait être incessamment libérée. Sa libération conditionnelle a en tout cas été acceptée par la cour d'appel de Bourges. Carlos Ghosn peut être lui aussi remis en liberté ce jeudi. Le tribunal de Tokyo a fait droit à la demande de ses avocats, mais le parquet a fait appel. En politique, c'est l'événement du jour, l'acte 2 du quinquennat, l'instant de vérité pour Emmanuel Macron. Après 5 mois de crise des gilets jaunes, le président de la République présentera ce soir à 18h ses réponses au grand débat sous la forme d'une conférence de presse. Ce sera sa première. Parmi les annonces attendues, toutes celles qui touchent au pouvoir d'achat et aux impôts.
Qui remettent l'ISF.
La hausse des salaires, bien sûr.
Un gel des prix au niveau de tout ce qui est course ou essence, etc.
J'attends pas de mesures. Quand on est dans l'attente, on est toujours déçu.
Le chef de l'État, très attendu aussi par les syndicats dans un contexte budgétaire plutôt tendu. Émission spéciale à suivre sur France Inter entre 18h et 20h. Des embauches en CDI qui repartent à la hausse, 2,4% de mieux pour le premier trimestre, notamment dans les petites entreprises. Un léger mieux qui doit être tempéré dans une économie qui reste attentiste. Invité de ce journal, le PDG du réseau d'agences intérim Randstad France. Dans ce journal également, à un mois et un jour des européennes, coup de projecteur sur l'Europe sociale et la réforme du travail détaché, poussée par la France d'ailleurs, pour mieux encadrer notamment le transport routier. C'est la chronique Europe signée Delphine Simon. Les médicaments anti-épileptiques sur la sellette. Après le scandale de la Dépakine, l'agence du médicament met les femmes enceintes en garde contre d'autres médicaments présentant des risques pour le fœtus. Et puis bien sûr, c'était une voix, une grande voix du cinéma français.
Vive la République de Bretagne !
Il y avait une folie chez Marielle. Hein. Il partait très loin, bien au-delà du réalisme.
Et oui, Jean-Pierre Marielle est mort à 87 ans. Tous les professionnels du cinéma de toute génération, comme ici Bertrand Tavernier, lui ont rendu hommage tout au long de la matinée. La météo, bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Attention au vent ce jeudi.
Haute-Loire, Loire, Rhône et Isère restent en vigilance orange jusqu'à 110 km à l'heure attendue en plaine, 130 sur le relief. Beaucoup de pluie sur la moitié est, de la neige aussi vers 1000 mètres sur le massif central. À l'ouest, c'est un ciel d'averse, parfois de l'orage également. Et puis une ambiance plus fraîche, 12 à 17 degrés. Plus de la Méditerranée à l'Alsace, 17 à 24.
Le bulletin météo complet en fin de journal.
France Inter.
On se souvient de l'affaire Roman, dont au moins 2 films avaient été tirés. La cour d'appel de Bourges a donc accordé ce matin la liberté conditionnelle à celui qui se faisait passer pour un médecin, Sophie Parmentier.
Oui, et cette décision rendue par la cour d'appel de Bourges a été confirmée par l'avocat de Jean-Claude Roman, qui attend de s'entretenir avec son client pour de plus amples déclarations. En tout cas, la libération conditionnelle du faux docteur Roman a bel et bien été acceptée en appel quelques semaines seulement après avoir été refusé par un tribunal d'application des peines de Châteauroux. Alors, il faut rappeler que Jean-Claude Roman, qui est aujourd'hui âgé de 64 ans, avait été condamné en 1996 à la réclusion criminelle à perpétuité pour avoir tué 3 ans plus tôt sa femme, leurs 2 enfants et pour avoir tué ses propres parents une nuit alors que sa famille était sur le point de découvrir l'énorme mensonge qu'il leur racontait depuis toujours. Il leur faisait croire qu'il était médecin à l'Organisation Mondiale de la Santé alors qu'il ne l'a jamais été. Condamné à perpétuité, donc avec une peine de sûreté de 22 ans, le faux docteur Roman était libérable depuis 2015. Alors pour déposer son projet de libération conditionnelle, eh bien sûr, il fallait des mesures probatoires obligatoires, il fallait un projet de réinsertion sérieux, un projet qui a donc convaincu la cour d'appel de Bourges, même si on n'a pas encore tous les détails. En tout cas, pour la famille de la femme de Jean-Claude Roman, pour ses frères, pour sa mère, eh bien cette décision est un choc, c'est une immense déception, dit leur avocate. L'avocat de Jean-Claude Roman, lui, ne cesse de clamer que ce projet de réinsertion était sérieux, bien ficelé. Il dit aussi que son client se fera discret. En tout cas, Jean-Claude Roman n'est pas libérable aujourd'hui, mais il doit être libéré avant le 28 juin.
Sophie Parmentier. Après le grand débat, le grand oral, c'est donc à 18h ce soir qu'Emmanuel Macron présentera ses conclusions à la crise des Gilets jaunes. 5 mois de manifestations, 3 mois de débats tous azimuts. Son intervention devait se faire en 2 temps. Au départ, une allocution le 15 avril, une conférence de presse 2 jours après. L'incendie de Notre-Dame, on le sait, a tout bousculé. C'est donc par cette seule conférence de presse que le chef de l'État précisera ce soir ses intentions pour ce qu'on appelle déjà l'acte 2 du quinquennat. On va y revenir. Tout le monde y va de ses hypothèses ou de ses espoirs depuis plusieurs jours. Et vous, au fait, qu'attendez-vous du président de la République ce soir? Vos réponses au hasard dans les rues de Strasbourg et de Rouen.
Qui remettent l'ISF.
La hausse des salaires, bien sûr. Le salaire moyen devrait être au moins de 2500 euros, quoi, net.
Un gel des prix au niveau de tout ce qui est course ou essence, etc. Parce que, bon, augmenter les salaires, c'est bien, mais si à côté tous les prix augmentent, en fait, ça sert à rien.
J'attends pas de la théorie, qu'il s'ancre dans des actes et qu'il soit clair par rapport à ce qu'il propose, parce qu'il y a un peu d'enfumage. Les gens n'aspirent pas à être riches, ils aspirent à vivre dignement et avec le fruit de leur travail.
Quand on est dans l'attente, on est toujours déçu. J'attends pas de mesure, mais s'il y en a vraiment qui m'aident après, je serai très contente.
Voilà, parole de Français recueillie par Marianne Naquet et Clara Guichon. Les mesures les plus attendues concernent, on vient de l'entendre, la vie quotidienne, le pouvoir d'achat, les impôts. C'est évidemment sur ces dossiers que le chef de l'État sera également jugé par les syndicats. Des syndicats qui sont déjà au taquet, comme le secrétaire général de Force Ouvrière, Yves Verrier, joint par Manuel Ruffez.
La réforme dite transformation de la fonction publique, le 9 mai, tous les syndicats de la fonction publique appellent à la grève contre cette réforme. Il y a les tensions au sein de l'hôpital, avec en particulier en ce moment aux urgences. Il y a les tensions à l'école également, au lycée, au collège. Donc il y a déjà de gros dossiers lourds devant nous. Donc ce que j'attends, c'est que, un, on n'en ouvre pas, et deux, qu'on réponde à ce que manifestent les salariés qui sont mobilisés sur ces dossiers. Dossier lourd. Et puis il y a le dossier de la retraite, hein, la réforme des retraites. On voit aujourd'hui revenir la question de l'allongement de la durée d'activité, la question du niveau des pensions. Donc il y a beaucoup d'inquiétudes. Je pense qu'il serait temps d'apaiser le climat social en faisant marche arrière sur ces dossiers.
Ce qu'annoncera le président de la République à cette heure-ci, personne n'en sait rien, bien qu'une partie des mesures ait été révélée la semaine dernière, dont certaines seront sans doute reprises, d'autres peut-être rectifiées. Attendez-vous à savoir, comme le disait une journaliste de Radio Luxembourg il y a bien longtemps, en l'occurrence Élodie Forêt, on sait déjà au moins les questions qui lui seront posées au chef de l'État sur les sujets les plus importants, donc le pouvoir d'achat, les impôts, les retraites.
Oui, sur tous ces sujets majeurs, on attend énormément de précisions. La baisse d'impôts sur le revenu d'abord, quelles seront les conditions? Quels montants, quelles tranches seront concernées? Interrogation aussi sur la réindexation des retraites. Le gouvernement va-t-il fixer un seuil à 2000 euros comme prévu dans la version 1 des annonces? Ou Emmanuel Macron, conscient qu'il doit faire un geste d'ampleur, va-t-il aller plus loin cette fois en réindexant tout le monde?
Sachant qu'en contrepartie des mesures annoncées, il faudra penser bien sûr aux équilibres financiers. C'est un peu le débat de ces derniers jours, Élodie, sur la nécessité de travailler plus.
Et oui, car si je reprends cette mesure de réindexation des retraites. Si tous les retraités sont concernés, ça va coûter 3 milliards d'euros contre 1,4 milliard si on fixe un seuil à 2000 euros. Forcément, l'impact n'est pas le même. Alors pour équilibrer les finances publiques, plusieurs pistes. La suppression ou abaissement de niches fiscales, une piste privilégiée par de nombreux élus marcheurs. Vous le disiez, la nécessité de travailler plus, mais sous quelle forme? Un jour férié de moins, l'âge de départ à la retraite repoussé, autant d'hypothèses que le président devra écarter ou non et dire s'il s'agit de financer la baisse d'impôts ou la dépendance, de sujets à ne pas mélanger. Dans la majorité des députés proposent aussi d'autres idées. Aurélien Taché, par exemple, prêche pour recourir à la contribution pour le remboursement de la dette sociale, un impôt qui jusque-là sert à rembourser le trou de la sécu.
Et puis hors vie quotidienne et questions économiques, il y aura aussi d'autres sujets.
L'institutionnel, réduction du nombre de parlementaires, dose de proportionnelle significative, référendum d'initiative citoyenne locaux, ce sont des mesures plébiscitées par les Français que le président devrait confirmer. En revanche, le projet de suppression de l'ENA fait grincer quelques dents. On verra s'il est maintenu et sous quelle forme. Quid aussi de la transition écologique, peu présente dans les mesures qui ont fuité. De nombreuses ONG se sont alarmées. À voir si Emmanuel Macron les aura écoutées.
Conférence de presse du président de la République à partir de 18h, émission spéciale sur France Inter de 18h jusqu'à 20h. C'est dans un contexte économique relativement favorable que s'exprimera le chef de l'État, puisque les derniers chiffres de l'emploi ce matin font état d'une forte hausse des embauches en CDI qui ont progressé de 2,4% au premier trimestre, notamment dans les petites entreprises de moins de 20 salariés. Alors ce sont de bons chiffres à tempérer dans une économie qui reste globalement attendue. attentiste. On est loin des pics de la fin 2017, mais les intentions d'embauche affichées par les entreprises sont également à la hausse. Invité de ce journal en ligne avec nous, François Béharel, PDG de Randstad France, le plus important réseau d'agences d'intérim en France. Bonjour.
Bonjour.
Vous confirmez cette tendance des embauches en CDI qui repartent à la hausse, vous l'avez constaté ?
Ah oui, clairement. Depuis déjà plusieurs années, on voit une croissance très forte à deux chiffres, en tout cas en ce qui nous concerne, les dernières années. On était à plus de 30% de croissance comparé aux années précédentes. Il y a eu effectivement un ralentissement au deuxième semestre de l'année dernière, mais clairement, le marché de l'emploi sur les CDI, la recherche en CDI est encore très dynamique. Pendant que le marché du travail temporaire, ça vous a pas échappé, lui a baissé depuis 6 mois. Hein. Il est encore un peu négatif, même si il avait atteint un point haut. Donc oui, je le vois même encore plus fort, hein, quand la cause s'annonce plus 5% au premier trimestre comparé au trimestre de l'année dernière. Nous, on est à plus 10%, hein, par rapport à l'année dernière, qui était un point très haut. Donc oui, je confirme.
Alors, en précisant que les CDD courts, hein, de moins d'un mois, restent toujours privilégiés par les entreprises, mais qu'ils sont donc en diminution.
Oui, alors ça c'est le vrai nœud du problème, hein, au moment où on parle de ces contrats courts. En réalité, il n'y a pas plus de CDD qu'à l'époque. C'est la durée des contrats qui s'est réduite énormément, et ce qui est un vrai sujet pour l'ensemble des candidats qui peuvent difficilement vivre avec des contrats très courts. Mais en fait, ça ne traduit que la peur du lendemain. Donc les entreprises, là où elles recrutaient un CDD pendant 6 mois, maintenant elles préfèrent découper en moins d'un mois. Ce qui prouve leur peur du lendemain.
Hein. Ce qui est contradictoire avec la hausse des embauches en CDI, qui, elle, souligne au contraire un retour de la confiance, peut-être.
Eh ben, en fait, c'est pas tout à fait ça. En fait, il y a une fragmentation réelle du marché de l'emploi. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une guerre des talents qu'on a vu apparaître il y a quelques années. C'est-à-dire que dès lors que vous êtes qualifié, et je vous parle pas que des cadres, hein, parce qu'une grande partie de notre activité de recrutement se fait sur des métiers manuels. Hein. Je vous parle pas que des responsables d'informatique, des comptables, etc. Non, je vous parle des métiers traditionnels qualifiés. Donc d'un côté, dès que vous avez les compétences, votre risque par rapport au chômage s'est réduit fortement depuis plusieurs années. Et là, malgré une économie difficile, les chefs d'entreprise sont tout à fait prêts à prendre le risque parce qu'elles ont absolument besoin de ces compétences. Mais de l'autre côté, pour les mêmes raisons, c'est-à-dire l'instabilité économique, si vous êtes peu qualifié, alors là, elles sont absolument pas prêtes à prendre le risque de vous embaucher en CDI. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est la guerre des talents qui vient aider finalement la forte croissance des embauches en CDI. C'est pas l'économie. L'économie, elle est difficile, et on le voit bien, le PIB est attendu autour de 1,5, 1,6, là où il était à 1,8 les années précédentes. Donc c'est pas l'économie, c'est la guerre, c'est le manque de qualifications qui fait que même dans une économie difficile, le chef d'entreprise se dit, peu importe, j'embauche parce que de toute façon j'en aurai besoin.
Et il est trop tôt évidemment à ce sujet de faire le bilan des mesures pénicaux, hein, le plan formation compétences, l'apprentissage, etc. On n'en voit pas les effets pour l'instant.
Là, c'est le vrai sujet. En réalité, le nœud gordien, c'est la formation. On voit bien qu'on parle de ça, et en même temps, il y a des centaines de milliers d'offres d'emploi qui ne trouvent pas preneur. Et on sait que le nerf de la guerre, c'est la formation. Les réformes qui ont été mises sur le système de formation, la simplification et l'espèce de le plan de formation qui est attaché à chaque individu est une excellente mesure. J'aurais quand même une remarque à faire. C'est que le montant alloué à chaque individu tout au long de sa carrière par an, il est très faible, il est trop faible. Alors évidemment, il faut le financer. Mais en tant que spécialiste de l'emploi, je vous dis, avec 500 euros par an, ça va être difficile de changer complètement les compétences, changer de métier. Mais le système en lui, en son sein, il est excellent.
Alors dans ce contexte, il ne faut pas espérer une forte décrue du chômage.
Si vous voulez, on a vu les derniers trimestres que le chômage, on a parlé, il me semble, au dernier trimestre de moins 90 000, la baisse du chômage. Mais quand vous regardez les emplois nets, c'est-à-dire la création nette d'emplois, elle était plutôt autour de 16 000. Donc on peut pas dire que s'il y a eu 90 000 chômeurs de moins, il y a 90 000 personnes, j'aimerais vous dire le contraire, mais qui ont trouvé un job. La réalité, c'est pas le cas. Il y a le fameux halo du chômage, il y a des gens qui sont un peu sortis du système. Non, avec un PIB, si le PIB passe en dessous des 1,5, bon, bah, ça va commencer à être difficile. Et pour le coup, cette guerre des talents, le manque de qualification, va aider ça. Mais je pense que la dualité du marché, c'est-à-dire un plein emploi pour les métiers qualifiés, va aller en s'accroissant. Et à l'inverse, les peu qualifiés, ça va être de plus en plus difficile. Ou alors, il faut retrouver un PIB autour des 2%, quoi. Et là, ça ira mieux pour tout le monde.
François Béharel, PDG de Randstad France, réseau d'agences d'intérim parmi les plus importants du pays. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous. La suite de la Semaine Europe sur France Inter. Aujourd'hui, coup de projecteur sur l'Europe sociale. Beaucoup dénoncent le dumping social qui se pratique dans l'Union et dont le transport routier est notamment champion depuis l'élargissement de 2004. L'Europe de l'Est s'est même accaparé ce secteur du transport routier polonais, hongrois, lituanien. Sous la pression, l'Europe tente de durcir les règles, mais les pays de l'Est freinent. L'Europe vient d'adopter un paquet de directives pour encadrer justement ce transport routier, des règles qui étaient très attendues, Delphine Simon.
Aire de Morinvilliers sur l'autoroute A13 à la sortie de Paris, entre Poissy et les Mureaux, sur le parking, des dizaines de poids lourds. Les plaques d'immatriculation sont majoritairement étrangères.
Là, ici, sur 11 camions, il y a 9 camions étrangers. Il y a l'espagnol, il y a le portugais, il y a le slovaque.
À 18h, le parking est presque plein. Des routiers est-européens y ont établi leur camp de base, attiré par les douches et le wifi. Farshid Nayeri exploite une trentaine de poids lourds.
Un chauffeur étranger, il gagne. Allez, grosso modo, 1200, 1300 euros en semi-remorque. Le chauffeur français, il tourne entre 2005 et 3000, mais le patron transporteur étranger, il paye, je sais pas, 10% de charge peut-être, tandis que nous, en France, on paye 60% de charge.
En théorie, ces chauffeurs de l'Union européenne qui travaillent en France doivent toucher au minimum le SMIC. Leurs cotisations sociales, elles, sont versées dans leur pays d'origine. C'est le principe de la directive travail détaché. Dans les faits, la règle n'est que très peu respectée. Jean-Luc Laridan, patron d'une PME de transport international.
Normalement, au bout d'une semaine, vous devez rentrer chez vous. Les gars, ils sont là du 1er janvier au 31 décembre. Ils rentrent pas chez eux, ils rentrent à l'occasion d'un transport. Autrement, ils restent sur place. Ce sont des bus qui viennent les chercher pour les fêtes. Il n'y a rien du tout de respecté.
Alors certains grands noms français du transport routier ont trouvé la solution, ouvrir des filiales en Slovaquie, en fait des boîtes aux lettres, pour pouvoir embaucher des chauffeurs slovaques aux conditions sociales du pays, au détriment bien sûr des plus petites entreprises qui se sentent lésées, Delphine.
À force de dumping social, l'Europe nous a tués, accuse Gérard Hénel, ce patron d'une modeste société de Garges-lès-Gonesse. Avait 40 camions il y a 20 ans, il n'en a plus qu'un seul.
Ça a eu un impact sur mon entreprise, ouais, ça fait que je ne restais plus qu'un camion, là, une semi. Leur entreprise a péricliqué, ça a fait que les prix se sont cassés la gueule, hein, il faut appeler un chat un chat.
La Commission européenne veut remettre de l'ordre. Les eurodéputés ont adopté une directive. Elle prévoit l'interdiction des filiales boîte aux lettres, encadre le repos hebdomadaire des chauffeurs et impose des retours tous les mois. Mais au bout du compte, ce sont les écarts de niveau de vie qui causent le problème, explique Gérard Hénel. L'Europe sociale, elle est loin.
L'Europe, on l'a ouvert en 1er janvier 1993. Pourquoi on n'a pas obligé ces gens-là, au bout de 26 ans, à s'aligner sur le système social français, sur le meilleur système? Là, pourquoi les gens, ils gueulent de partout? Pourquoi il y a des gars qui vont voter au RN ou qui vont voter tout ça? Parce que les gens, ils n'ont plus confiance dans les autres.
Après avoir enfilé son gilet jaune tout l'hiver, il a participé au grand débat pour dénoncer cette concurrence déloyale.
Delphine Simon, les Européennes, c'est dans un mois et un jour exactement. Les infos de la matinée sur la campagne des Européennes, la liste du Rassemblement National. Maintenant, au complet, le député Gilbert Collard est en position éligible à la 15e place. Il devra donc, s'il est élu, laisser son siège à l'Assemblée Nationale. Marine Le Pen figure symboliquement à la 78e place. Quant à la Fédération Populaire, souhaitée par Jean-Luc Mélenchon, elle est plutôt mal partie. Nous n'avons pas la même vision de l'Europe, répète Raphaël Glucksmann, tête de liste PS Place Publique.
France Inter, le journal de 13h. Yves Decamps.
Le retour à l'air libre pour Carlos Ghosn, l'ex-PDG de Renault-Nissan, remis en prison début avril, pourrait être de nouveau libéré ce jeudi sous caution. Le tribunal de Tokyo a donné suite à la demande de ses avocats, malgré une quatrième mise en examen pour détournement de fonds. Mais le parquet a fait appel, cela dit, les avocats gardent bon espoir. Karine Nishimura nous appelle de Tokyo.
Les médias font le guet depuis plusieurs heures déjà devant la prison de Kosuge à Tokyo, d'où Carlos Ghosn devrait sortir sous peu. La caution a été versée et même si le parquet a fait appel pour s'opposer à sa libération, il y a de fortes chances que le deuxième juge approuve aussi la mise en liberté conditionnelle de l'ex-grand patron de Renault et Nissan. Toutefois, les conditions posées seront encore plus strictes que lorsqu'il avait été relâché une première fois en mars. D'après son avocat, il sera non seulement assigné à résidence à Tokyo avec une caméra à l'entrée de son appartement, mais en plus, il lui sera interdit de voir et contacter sa femme sans accord préalable du tribunal. Ces restrictions exceptionnelles commencent déjà à susciter des réactions d'indignation, mais elles sont justifiées par le fait que le procureur soupçonne Madame Ghosn d'agir pour détruire des preuves. Tokyo, Karine Nishimura pour France Inter.
Au Sri Lanka, les églises fermées jusqu'à nouvel ordre, tant que la sécurité ne sera pas assurée après les attentats de Pâques revendiqués par le groupe État islamique. La traque des suspects se poursuit. 75 personnes arrêtées à ce jour. Une nouvelle explosion a été signalée ce matin aux abords d'un tribunal de Pugoda, à 40 km à l'est de Colombo. Explosion incontrôlée qui n'a pas fait de victimes. Et puis aux États-Unis, un nouveau candidat pour les démocrates, l'ancien vice-président Joe Biden, qui annonce à son tour à 76 ans sa candidature, ce qui fait 20 candidats démocrates, dont on pourra lire les portraits sur franceinter.fr. Il n'y a pas que la dépakine. Au chapitre santé, on connaît le scandale sanitaire lié à ce médicament antiépileptique, dangereux pour les fœtus. De nombreux enfants sont nés avec une malformation parce que leur mère était sous traitement. On apprend aujourd'hui que d'autres antiépileptiques présentent aussi des risques, et même des risques élevés pour 5 d'entre eux. Et c'est l'agence du médicament qui le dit, Daniel Messager.
Oui, si la dépakine et ses dérivés demeurent le plus à risque. L'épitomax, par exemple, et ses génériques, peut entraîner des becs de lièvre, des malformations de l'urètre. 5 autres sont également dangereux, avec un risque élevé de malformations, de troubles neurologiques et du développement, multiplié par 3 par rapport à des femmes non exposées à ces traitements. Sur l'année 2015, par exemple, 30 000 femmes en âge de procréer se sont vues prescrire ces traitements, et parfois même pas pour soigner l'épilepsie, mais pour des troubles bipolaires. Pour Marine Martin, qui a mené le combat pour une information sur la dépakine, il faut que les femmes sachent que tous ces traitements sont potentiellement nocifs et que parfois ils sont trop prescrits.
Souvent, il y a une surmédicalisation des femmes épileptiques. Pas mal d'entre elles vont avoir une épilepsie juvénile, donc c'est juste ponctuel et vont être traitées à vie, alors que ce serait pas nécessaire. Il y a aussi des épilepsies de type absence qui n'engagent pas le pronostic vital de la mère. Elle peut peut-être se passer de traitement durant la période de la grossesse. Et enfin, il y a les femmes comme moi qui ne peuvent pas se passer de traitement. Et dans ce cas, il faut que premièrement, elles prennent l'antiépileptique le moins dangereux pour le fœtus, et puis qu'elles soient quand même informées qu'il n'y a pas de risque. Chaque femme avisera en fonction de son histoire, si ça en vaut la peine ou pas. Mais il faut que l'information soit donnée.
Et en particulier qu'apparaisse sur chaque médicament le pourcentage de toxicité. L'agence du médicament réunira un comité d'experts le 14 mai prochain.
Et les femmes enceintes concernées sont invitées bien sûr à consulter leur médecin, à surtout ne pas arrêter leur traitement avant de l'avoir vu. En sport, du foot, mais du foot à 5. Ce n'est pas nouveau, ça vient pas de sortir, mais c'est une pratique qui se développe. Lancé il y a une dizaine d'années en France, le five foot, puisqu'on peut aussi le dire en anglais, se développe d'autant plus qu'il ne demande pas de grand terrain. On peut y jouer facilement entre collègues à la pause de midi, par exemple. La Fédération française de foot signera tout à l'heure à Paris une convention qui devrait permettre aux petits clubs et au monde scolaire de profiter des mini-terrains déjà prévus à cet effet par les communes. Cécilia Arbonin.
Nous sommes en bordure du périphérique parisien, porte de Choisy, il est 19h.
Bah avant on jouait un peu dans le quartier quand j'étais jeune, mais on n'avait pas de terrain, du coup on jouait sur le boulevard. Quoi.
Nicolas et ses camarades de bureau se sont donné rendez-vous sur un rectangle vert en pelouse synthétique dernière génération. On est là plus proche en termes de dimension du court de tennis que du stade municipal.
Il y a des développeurs, il y a des commerciaux, et moi je suis chef de projet. On essaie d'avoir un rythme de un match par mois, pouvoir bien se défouler. Quoi.
C'est plus cardio que du
football. Ouais, c'est plus cardio, ouais, c'est ça. Si, les buts, ça y va toutes les 30 secondes.
Proposer un espace loisir au cœur du béton, c'est exactement l'idée de départ de Joseph Viéville, cofondateur de Five Foot.
Le Five essaye de casser les codes. Le foot à 11 a aussi des contraintes. Vous voyez, là, on est en intérieur. C'est toujours plus agréable, notamment quand il pleut ou quand il fait très froid. On travaille avec la Fédération française de football naturellement depuis toujours, puisque finalement on travaille avec les clubs, on travaille avec les districts, en proposant soit de la gratuité, soit des tarifs réduits aux clubs. Et nous, on est hyper ouverts à travailler avec la Fédé.
Ensemble, ils veulent développer la mixité et attirer des joueuses. Hier soir, sur les 6 équipes de Five qui avaient réservé les terrains, il n'y avait qu'une seule femme.
Et ne pas croire que le foot à 5 soit moins physique qu'à 11. Allez, sa gouaille, son charisme, sa générosité, c'est une avalanche d'éloges qui a suivi ce matin l'annonce de la disparition de Jean-Pierre Marielle, l'acteur des Grands Ducs, des Galettes de Pont-Aven, de Tous les Matins du Monde et de tant d'autres films, a rejoint ses copains Rochefort et Noiret, comme l'écrit Guillaume Canet sur les réseaux sociaux. C'est tout un cinéma qui part avec lui, toute une époque. Marielle, âgée de 87 ans, c'était un phrasé, une voix pour Fabrice Lucchini, orfèvre en la matière. C'était un acteur d'une grande originalité qui détestait les modes et les doxas, et il pouvait tout jouer, Jean-Pierre Marielle, des comédies truculentes, mais aussi des films d'auteur, sous la direction d'Audiard, de Blié, de Mocky, de Corneau ou de Bertrand Tavernier.
Je me sens totalement orphelin, moi, de mes débuts de cinéma. Le travail avec lui dans Coup de torchon, c'était formidable. Il y avait une folie chez Marielle, hein. Quand le personnage de Noiret lui disait qu'il était le Christ, Marielle avait une sorte de stupéfaction métaphysique. Et on avait j'avais beaucoup joué avec ça, parce que c'était un bonheur. Il partait très loin, bien au-delà du réalisme. La consécration suprême, ce sont les rôles. Et comment ces rôles tiennent le coup, et les films tiennent le coup. Et Marielle, il a contribué à faire évoluer le théâtre, il a contribué à faire évoluer le cinéma. Et il a amené une forme de lyrisme secret anglo-saxon dans le cinéma français.
Voilà Bertrand Tavernier au téléphone de Mathieu Message. C'est lui d'ailleurs, Bertrand Tavernier, qui avait fait vraiment connaître Jean-Pierre Marielle dans l'un de ses premiers films à succès. Ça s'appelait « Que la fête commence ».
Ah ! Hélène, Hélène ! Je suis feuillet de tous mes malheurs ! C'est la guerre ! Vive la République de Bretagne !
Voilà Jean-Pierre Marielle qui n'a jamais eu le César, dont il n'avait rien à foutre, disait-il, ajoutant « Je ne suis pas un acteur de Tombola ». Le temps.
La météo avec Gauthier, la marque française de mobilier contemporain. Et pour trouver le mobilier de vos rêves, rendez-vous en magasin et sur gauthier.fr.
Un temps très agité, Elodie Calac.
Toujours beaucoup de vent sur le centre-est, de violentes rafales sur Haute-Loire, Loire, Rhône et Isère, jusqu'à 110 km à l'heure en plaine, 130 sur les hauteurs, ça se calmera par l'ouest en fin de journée. Du Languedoc et de la vallée du Rhône vers le massif central, le nord-est, de bonnes pluies, parfois orageuses, particulièrement soutenues sur les Cévennes. Attention à la neige également, elle s'abaisse autour de 1000 mètres sur le massif central, ce sera le cas aussi cette nuit sur les Alpes. Entre les Pyrénées, le nord-ouest et le nord de la Seine, un ciel d'averse, parfois de l'orage et du grésil, c'est mieux sur l'Aquitaine, de belles éclaircies. Merci. Le tout dans une ambiance rafraîchie, 12 degrés à Clermont-Ferrand, 16 degrés à Paris, 17 à Metz, Bordeaux, Toulouse, encore 24 à Strasbourg et Perpignan. On gardera un temps instable demain avec des averses, surtout dans le sud.